appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mouimaï au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs sur les antennes des radios Okapi. Dans un document rendu public sur les médias en ligne, Martin Fayoulou, candidat à Maloré à l'élection présidentielle du mois de décembre 2018, propose un schéma pour harmoniser le climat politique en RDC. Son schéma prévoit des discussions entre les parties prenantes et la mise en place d'une structure pour la réforme des institutions. Réagissant à cette proposition dans un point de presse à Bounia, le président Félix Tshisekedi estime que la proposition des réformes des institutions devrait être présentée au Parlement en cas de besoin. Comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous au 081 890 49 69 pour vos interventions en direct. Le débat, c'est aussi sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Jean-Noël Mokondo est à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Nico Kalambay. Pierrot et la Mégie, j'ai le réel plaisir de vous le présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs, Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Rappelons que cette proposition fait suite à celle débattue la semaine passée dans cette émission qui était proposée par le bureau politique de progressistes et qui estimait qu'il fallait que le chef de l'État convoque une table ronde de discussion pour apaiser les esprits. Et de son côté, comme vous venez de le dire tout à l'heure, Martin Fayoulou estime que des discussions peuvent être organisées avec les parties prenantes et mettre en place une structure pour la réforme des institutions. Le chef de l'État estime que les discussions pour la réforme des institutions peuvent être proposé au sein de l'Assemblée nationale, mais tout en estimant aussi que ces propositions peuvent être acceptées ou refusées. Comment commentez-vous cette actualité? Gabin Lulendo, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, porte-parole adjoint de l'UNC et communicateur CASH. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot.
Et cette proposition est la deuxième, on peut dire, pour nous, dans Parole aux auditeurs, parce qu'on a débattu aussi celle de progressistes la semaine passée. Estimez-vous aujourd'hui que c'est possible qu'on ait des discussions autour de la situation politique actuelle dans le pays?
Mais je pense que le propos du président de la République ont été très clairs, ont été très nets. Parce que déjà, ça montre comment la classe politique congolaise fonctionne. Il y a un discours pour la consommation du public, il y a un discours qui est celui-là, les vrais discours attestant ses vraies intentions lorsqu'on mène un combat politique. Donc, les discours pour la consommation du public, c'est de dire « oui, écoutez, nous sommes là pour la vérité des urnes ». Mais les vrais discours, ce pourquoi on se bat matin, midi, soir, c'est en réalité un positionnement tout à fait personnel. Et les révélations qui ont été faites à travers deux documents datant respectivement du 10 mai 2019 et 12 mai 2019, ces révélations sont très éloquentes par rapport à l'état d'esprit des acteurs politiques, même si de temps en temps, ils vous disent, écoutez, nous ici, c'est le combat pour le peuple, le combat pour la défense des intérêts du peuple, mais en réalité, c'est la défense de leur propre intérêt personnel.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire qu'on ait quand même, que ce soit table ronde, discussion, dialogue, c'est important aujourd'hui que les Congolais, les acteurs politiques, société civile se retrouvent pour discuter sur la marche et la situation du pays?
Les dialogues dans une république, il est permanent. Donc, en principe, le problème ne se pose pas en ces termes-là. Donc, à tout moment, les gens peuvent se retrouver, discuter, proposer pour la bonne marche de la république. Mais les vrais problèmes, c'est que lorsque vous entendez les acteurs politiques vous dire « retrouvons-nous pour une table ronde, retrouvons-nous pour un dialogue », eh bien, sachez que ces dialogues ou ces tables rondes devra déboucher sur le partage de pouvoir. Donc, ils utilisent un canal qui est tout à fait permanent, qui est tout à fait logique dans une république, à travers notamment les dialogues, pour obtenir des choses qu'ils veulent. Les choses qu'ils veulent, c'est les partages des gâteaux. Mais pour le moment, je pense que la situation est au rendez-vous dans la mesure où il y a un président qui a été élu, bientôt un gouvernement va être mis en place, d'autres institutions ont été mises en place. Laissons ces institutions fonctionner, n'allons pas dans des schémas qui sont contraires à la constitution de notre pays. Personne n'en sortira gagnant, sauf les acteurs pour leur propre positionnement.
Mais quand on se rappelle aussi, il était impossible d'avoir les élections l'année passée, il y a eu quand même des schémas comme ça qui ont permis aujourd'hui qu'on ait les élections avec les institutions actuelles. Mais est-ce que face à des mécontentements, on peut arriver quand même à discuter, même quand si cela ne peut pas déboucher sur le partage des pouvoirs?
Non, mais est-ce que pour faire des propositions pour l'avancement de son pays, est-ce qu'on a besoin d'être à la tête d'une institution qui va être créée pour répondre à l'appétit d'un individu? C'est ça la question fondamentale. Vous donnez l'exemple, mais l'exemple là n'est pas à comparer à la situation actuelle. Avant, vous avez un président qui était hors mandat, alors que la Constitution prévoyait qu'il avait un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et ces présidents étaient hors mandat, les élections n'ont pas été organisées, les astuces continuent à être multipliées pour ne pas organiser les élections, à telle enseigne qu'on était vraiment dans une situation de crise, dans la mesure où on était pratiquement sorti de la Constitution, parce que la Constitution ne permet pas à un président de la République de rester au-delà de son mandat. On était dans une situation comme celle-là. Mais actuellement, vous avez un président qui a été élu et les institutions qui ont été mises en place et bientôt, le gouvernement va se mettre en place. Quel est l'essence, bien évidemment, d'une telle proposition? Une institution qu'un individu qui, visiblement, dit réclamer la vérité des urnes, mais qui, en réalité, veut se positionner à la tête d'une institution parce que, effectivement, personne ne veut attendre en 2023 lors de l'organisation du prochain scrutin. Non, on veut avoir pratiquement, c'est une transition qui ne dit pas son nom, 12 à 18 mois. Vous avez élu, nous avons élu un président de la République pour un mandat de 5 ans. Nous n'avons pas élu un président de la République pour 12 mois ou 18 mois. C'est aussi simple que cela, mon cher Pierrot.
Voilà, on va revenir à vous, hein, le temps d'écouter les auditeurs. Ils sont nombreux qui voudraient bien commenter, réagir à ces différentes propositions sur la page Facebook aussi. Hein. Il y a un débat qui est très très animé et en ligne, nous avons Junior qui nous appelle de Mbandaka. Merci d'être avec nous, Junior. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot.
On vous écoute, Junior.
Je viens de suivre avec attention mon prédécesseur. Je pense que l'offre de M. Fayoulou sur la réforme des institutions, pour moi, consacre le soufflement d'un radicalisme stérile de la vérité des îles. Et du coup, ouvre grandement la porte à une vote ici favorable à la démocratie, gage de la stabilité institutionnelle, et peut en quelque sorte mettre fin à la crise de légitimité. Tout dépendra maintenant pour moi de l'importance que les acteurs politiques pourraient accorder à cette proposition. Parce que ce n'est pas un tabou que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour discuter entre eux. Mais le comble, comme l'a souligné mon prédécesseur, est que la plupart des dialogues ou des concertations débouchent sur le partage du gâteau. C'est ce qui est un peu quelque chose à regretter dans ce sens. Mais ainsi, il faut parler pour résoudre une crise parce que il ne fait aucun doute que depuis les années des indépendances jusqu'à ces jours, si le Congo a connu des crises politiques, c'est aussi des crises de légitimité, lesquelles, s'il faut discuter pour résoudre une fois pour toutes ce genre de crises, ça pourrait toutefois permettre à la démocratie congolaise d'avancer.
Oui, Junior, mais vous parlez de crise de légitimité, mais si on fait le recul sur la question de la crise de légitimité, on estimait que les gens accédaient au pouvoir par des négociations. Ces pouvoirs-là n'étaient pas couverts par les lois du genre la Constitution. Maintenant que les gens accèdent au pouvoir par la Constitution, par les élections, est-ce qu'on peut continuer à parler des crises de légitimité? Ou bien comment, toi, tu comprends un peu cette crise de légitimité évoquée, que tu évoques?
Monsieur Gilles, je sais très bien que aujourd'hui, on accède par les voies électorales, par les voies de la Constitution, mais il faut se demander quel type d'élection. Lesquelles des élections, si vous vous rappelez comment la communauté internationale, il y a eu d'abord des contestations. Avant qu'on accepte la personne qui accepte le pouvoir, il y a des contestations. Les élections de 2006 ont été émaillées d'irrégularités, des contestations. 2011, mais 2018, vous savez, rappelez-vous de l'expression qu'a utilisé le ministre français des Affaires étrangères. C'est une passation pacifique en quelque sorte à la compromis africaine. Il faut des vraies élections pour lesquelles le peuple va se retrouver et la vérité, donc, les choix du peuple soient respectés, tel qu'il est voulu par le peuple. C'est ça, ça fera la fierté de la démocratie. Nous sommes, en fait, très bien qu'on vient de loin. On avance, mais on va offrir au peuple congolais les bonnes élections si, par la voie du dialogue, comme propose M. Fayulu, pour sortir de la crise de légitimité, les bonnes élections qui peuvent permettre au peuple congolais de s'accepter, et même les vainqueurs aussi, au niveau des électeurs, peuvent accepter la vérité des élections.
Merci beaucoup, Junior Félicien. Vous êtes ici à Kinshasa. Félicien, pour vous, quels pourront être le... comment expliquez-vous alors cette proposition de réforme des institutions? Il faut discuter, il faut des discussions, il faut des dialogues. Alors, pour vous, comment tout ça doit-il être mené, Félicien? Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue Maître Gabin le long de votre Merci d'abord de m'avoir passé la parole sur votre mission. Pour moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la proposition de M. Martin Fayulu, l'honorable, et j'ai encore bien entendu sur vos ondes l'observation du président de la République face à cette proposition. À mon avis, cette proposition, moi je voyais que ce n'est pas opportun pour le moment. Pourquoi? Puisque moi, les hommes politiques influents soient-ils de ce pays doivent souvent éviter les mécanismes hors constitutionnels, car ceux-ci risquent encore d'engager encore la situation des tensions politiques dans la société. Car, si vous voyez bien, les autorités actuelles ont accédé au pouvoir par la voie électorale. Bon. Les élections, souvent en Afrique ou partout dans le monde, n'ont jamais été parfaites. C'est pas. S'il y a eu des imperfections que M. l'honorable Martin Fayulu estime qui sont à la base de la prétendue crise, selon lui, il fallait attendre l'échéance électorale, soit 2023, qui n'est pas encore trop loin, pour savoir identifier les causes d'abord de cette crise et agir en aval. Plutôt qu'en amont, vous venez, vous donnez encore des propositions qui restent encore, de nous plonger encore dans la crise, vu qu'il y a certaines personnes actuellement, ou soit certains leaders politiques, au vu de leur poids politique, et le projet qu'ils occupent actuellement, ils ne pourront plus accepter facilement aussi de perdre leur poste pour, soit, je peux dire, pour une seule personne, puisque moi je vois que c'est lui-même, c'est l'honorable Martin Fayulu qui a suggéré cette proposition, qu'on puisse perdre, que tout le monde prenne par exemple le Sénat, composé de plus de 100 quelques personnes, l'Assemblée nationale, plus de 500, les assemblées provinciales partout dans les provinces partout, que toutes ces personnes-là perdent leur poste pour l'intérêt d'une seule personne. Alors, vous voyez comment ça va engendrer. Il y
aura encore des choses. Alors, pour vous, Félicien, vous estimez, hein, pour vous estimez que aller aujourd'hui pour discuter, mettre en place de nouvelles structures, cela risque de déstabiliser encore le pays, parce que beaucoup de choses risquent encore d'être bougées. Alors, comme il y a eu toujours des contestations après les élections, autant mieux avancer pour voir comment organiser des élections en 2023, plutôt que se mettre autour de la table et se partager, par exemple, le pouvoir ou des institutions, et ce qui peut apporter encore plus de déstabilisation. Il y a, par exemple, sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, Beauville Anglade nous écrit en disant ceci: je ne veux pas comprendre quand les Congolais disent qu'il y a une crise. Je crois qu'il ne faudrait pas confondre la crise et les insatisfactions qui sont normales après les élections. Il y a toujours le camp des gens qui sont contents et ceux qui sont mécontents. Il faut être pragmatique et cohérent. La RDC aujourd'hui, je ne considère pas qu'il est en crise. Pour avoir un plan de sortie des crises, il y a de nouvelles institutions qui sont en train de mettre du temps pour s'intégrer dans la gestion de l'État. C'est juste ce qui est là. Alors, il faut leur donner le temps de pouvoir s'intégrer jusqu'à ce qu'ils installent les institutions d'une manière stable. Mais après les élections, on a toujours le camp de ceux qui sont contents et ceux qui sont mécontents. Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Et quel est votre point de vue dans cet échange?
Bonjour, Monsieur Pierrot. Bonjour à tous les millions d'auditeurs. La proposition de Monsieur Fayoulou, il a aussi son pesant d'or par rapport à la quête des solutions pour que notre pays aille de l'avant. Mais c'est le moment n'est pas indiqué, puisque, comme vous venez de le dire, il y a de nouvelles institutions, il y a des élections qui ont été organisées, nous avons un président de la République, nous avons une assemblée nationale, nous avons un Sénat, nous avons les assemblées provinciales. J'estime que lors de l'investiture, le chef de l'État avait tendu la main à notre frère Fayoulou et l'avait qualifié cette main de sang. Pour lui, c'était question de la recherche de la vérité des yeux. Et vous savez, en toute chose, là, il faut savoir qu'on négocie toujours lorsqu'on est en position de force. Voilà que M. Paulou est affaibli. Il va négocier quoi? Moi, j'estime qu'il faut qu'il se rende seulement dans la logique d'un monsieur intègre, d'un monsieur cohérent comme Moïse Katumbi-Tchakoué. Lui, il n'a pas tergiversé, le chairman, le président d'ensemble au niveau pour le changement. Il la promet pour une proposition républicaine. Cette proposition républicaine, c'est un maître de critique objective et proposer des pistes de solutions afin que le pays aille de l'avant, ce n'est pas un radicalisme sauvage, comme nous l'avons vécu avec M. Fayoulou. Nous estimons que lorsqu'il dit cela, il a dit quand, puisqu'il fait partie de la soi-disant plateforme La Mouka. Est-ce que son coordonnateur de La Mouka a été au courant? Vous voyez que M. Fayoulou est en train de jouer à une escroquerie politique. Est en train de déjouer.
Oui, mais est-ce que son ville, est-ce qu'il est exclu? Qu'est-ce que les gens, qu'ils soient dans des plateformes, qu'ils soient à la Mouka, qu'ils soient ensemble, qu'ils soient cash, qu'ils soient FCC, est-ce qu'il est exclu qu'un leader puisse faire une proposition? Est-ce que cela est exclu?
Il est exclu aussi longtemps que la Mouka, d'après l'organisation de la Mouka, nous savons que celui qui assume la coordination rotative pour le moment, c'est Moïse Katumbi-Tchakoué. M. Fayoulou devait rendre d'abord compte à leur coordonnateur pour poser le problème. Moi, j'estime que M. Pierrot, moi, maître Sondel, j'ai battu campagne de M. Fayoulou dans les grands Katanga, sans oublier Baba Tunga Kumanza. Nous, on ne savait pas qu'on pouvait se retrouver avec un Fayoulou qui déraisonne.
Non, mais je crois Sonville qu'on est dans un débat public. Chacun de compatriotes et d'auditeurs mérite respect sur les antennes. Mais vous estimez par exemple que le moment n'est pas indiqué, qu'il fallait que cette proposition sorte de la plateforme La Mouka. On aura un débat consacré bien sûr à l'avenir de l'opposition ainsi que La Mouka. On pourra réunir les leaders La Mouka pour faire un débat dans Paroles aux Auditeurs prochainement. Mais aujourd'hui, nous revenons sur cette proposition. Vous estimez pour vous qu'en ce moment, il ne serait pas bien de faire une telle proposition, mais plutôt évoluer dans la logique des autres membres de La Mouka, comme Moïse Katumbi qui propose que La Mouka évolue dans une opposition républicaine, pas dans des discussions pour le partage des pouvoirs. Il y a notre ami, bienvenue Bassapide, qui nous écrit d'Isiro. Il dit ceci, nous saluons la proposition de Martin Fayulu car ça prouve qu'il veut voir un véritable changement parce que l'état dans lequel se trouve le pays actuellement donne un mauvais présage pour le développement de notre pays. Mais je reste pessimiste pour savoir si le Parlement qui est majoritaire peut accepter de pouvoir engager des discussions sur la réforme des institutions. Nous revenons, nous avons à Kikwit. Merci Arsène de nous avoir rejoint. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Et pour vous, comment on peut mener cette démarche et puis pour arriver à la réforme des institutions comme souhaité par Martin Fayulu?
Merci beaucoup pour la parole donnée, Monsieur Pierrot. Ben, moi, je crois que personnellement, ça n'engage que moi. Nos leaders sont en train de s'amuser avec la population congolaise. Nos leaders sont en train de prendre la population congolaise en otage. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis les années 1960, on est en train de nous entraîner dans leur, qu'est-ce que je peux appeler ça, dans leur sentiment personnel. Kikwit, par exemple, je vous dis, aujourd'hui à Kikwit, les gens sont en train de souffrir. Il y a eu des morts, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Aujourd'hui, nous devons savoir une chose. Laissons un peu le sentiment personnel et les sentiments partisans. Et les sentiments partisans ne peuvent pas développer le pays. Nous devons nous entendre. Et le Congo, le Congo n'appartient pas à Fayou, le Congo n'appartient pas à Tshisekedi. Attention, s'il vous plaît. Le Congo appartient à tous les Congolais. Ça, je le dis à partir de Kikwit. Depuis qu'il y a eu l'élection, Arsène s'est tué. Arsène s'est tué pourquoi? Parce que je trouve le désordre. Je trouve la désorientation totale. Désorienter le pays par vos sentiments personnels. Nous devons nous entendre comme le faisaient nos ancêtres. Allons sous l'arbre. Entendons-nous. Toute guerre se termine sur la table, s'il vous plaît. S'il vous plaît, M. Fayulu. S'il vous plaît, M. Félix. Depuis les années 60, M. Etienne nous a entraînés dans ce qui nous a entraînés. Aujourd'hui, nous avons 92, je ne sais combien de partis politiques. Il y a un désordre. Dans la Bible, on le dit clairement. Tour de Babel, s'il vous plaît. Parlons la même langue. Parlons la même langue, peuple congolais, s'il vous plaît. C'est terminé. Moi, Arsène, sans sentiment, je l'ai dit devant tous les Congolais. C'est fini, cette histoire. Ça doit terminer. Vous avez fait des élections. Quelle type d'élection? Est-ce que ça satisfait les Congolais?
Voilà, merci pour vous, Arsène, on comprend. On comprend votre souci. Vous estimez que le Congo appartient à tout le monde. Il ne faut pas penser, analyser les choses d'une manière partisane. S'il y a des problèmes, pour vous, il faut que les gens regardent le Congo. S'il faut discuter, il faut que les gens discutent parce que les ancêtres étaient dans cette logique de sous l'arbre à palabre. C'est là où les gens discutaient pour résoudre le problème. Il y a un autre invité qui a dit tout à l'heure que la question du dialogue dans notre pays, c'est une question permanente. D'ailleurs, même la semaine passée, quand nous avons analysé la proposition de progressistes, beaucoup de gens ont estimé que les Congolais peuvent toujours continuer à discuter. On peut toujours continuer à discuter pour résoudre le problème. Mais le piège aujourd'hui dans les discussions, est-ce que les discussions vont aboutir, par exemple, au partage des pouvoirs? C'est là où vous avez dit que vous tombez dans les pièges des hommes politiques pour que les gens ne soient pas pris en otage. Mais pour vous, discuter, c'est normal parce que le Congo est plus grand que les individus. Franck, vous allez garder la ligne. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez nous joindre en direct au 081-890-4969, 081-890-4969. Et nous allons donner la parole tout à l'heure à notre invité pour commenter les points de vue de ses différents compatriotes. Mais rejoignez-nous aussi dans le débat qui se déroule sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Radio Okapi. À Mbujimayi. Okapi. Sur 93.8 FM. Okapi.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous revenons à vous, Maître Gabin Lulendo. Vous avez suivi les compatriotes. Même quand on regarde les débats sur la page Facebook, il est partagé. Il y en a qui estiment qu'on doit discuter. Mais beaucoup d'internautes ne veulent pas les discussions, par exemple, comme vous l'avez dit, qui conduisent au partage des pouvoirs. Mais comment on évite de tomber dans ces pièges des discussions qui finissent toujours par le partage des pouvoirs, Maître Gabin?
Bon, mais d'abord, je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure par monsieur Junior et peut-être d'autres. Mais est-ce qu'il y a crise de légitimité parce qu'il y a eu contestation? la contestation est tout à fait normale, elle est tout à fait logique dans une démocratie, dans une république. C'est pour cette raison qu'on prévoit des mécanismes de recours. Quand quelqu'un fait un recours contre une décision qui a été prise, c'est une contestation de la décision qui a été prise. Donc la contestation ne signifie pas qu'il y a crise de légitimité. Donc la contestation, c'est un mécanisme tout à fait normal de pouvoir dire non à une décision et d'utiliser le voie prévue pour que, effectivement, à un autre niveau, votre problème puisse être examiné. C'est pourquoi on peut tout reprocher à Étienne Tshisekedi à Moulumba, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas être cohérent. Regardez, lorsque Étienne Tshisekedi à Moulumba conteste l'élection de monsieur, Kabila Kabangé, Joseph Kabila Kabangé, eh ben, il est resté logique en disant, bon, mais je conteste l'élection, mais parce que je conteste l'élection, eh ben, les membres de mon organisation ou ceux qui me soutiennent ne doivent pas aller dans les institutions que je conteste. Je ne saisis pas la cour, à l'époque c'était la Cour suprême de justice, etc. Il est resté droit dans ses bottes. Mais ici, c'est quoi? C'est que vous avez des gens qui vous disent, vérité des urnes, pour une élection qui a eu lieu le même jour, mais prennent leurs partisans parce qu'ils ont besoin des émoluments qui sont importants au niveau des institutions. Ils les envoient là-bas siéger dans les institutions qu'ils qualifient d'illégitimes, mais ils ont au moins des membres là-bas parce qu'il est question des émoluments. Et plus tard, on fait des propositions pour qu'on se retrouve à la tête des institutions pour satisfaire ses propres appétits au nom de l'intérêt général. Mais ça, c'est du mensonge, cher Pierrot. C'est vraiment du mensonge. Moi, ce que je veux dire, si M. Martin Fayoulou avait été logique avec, ses propositions, eh ben, il allait élaborer les documents. Dans ce document, il allait dire, parce que la question en rapport avec la CENI, la Cour constitutionnelle, les questions liées à la défense et sécurité, les questions liées à la gouvernance, en particulier la lutte contre la corruption, les droits humains, etc. Ces questions les préoccupent. Il allait élaborer un document avec des propositions, des réformes pour la CENI, des propositions pour des réformes pour la Cour constitutionnelle, défense et sécurité, gouvernance, lutte contre la corruption ainsi que les droits humains. En ce moment-là, on comprendrait que c'est un citoyen qui veut que sa nation progresse parce qu'effectivement, il fait des propositions pour la bonne marche de sa nation. Mais ici, nous, on présente des choses pour les habiller, mais en réalité, il veut être à la tête d'une institution. Il n'a pas caché en disant, moi, je veux être là. Et il ne s'est pas limité là, parce que la lettre, les documents du 10 mai de l'année en cours, non seulement il a fait des propositions, mais il s'est porté lui-même garant pour être à la tête du Haut Conseil national des réformes institutionnelles en disant, oui, le président de la République peut rester pour gérer les pays. Deuxièmement, ce que lors de la lettre qu'il a écrite en date du 12 mai de l'année en cours, cette fois-là, il va encore plus loin en disant, j'ai été incomplet en proposant seulement ma propre personne pour diriger le Haut Conseil national des réformes institutionnelles, mais écoutez, j'ai également deux autres qui vont m'accompagner à la tête de cette institution-là. Il s'agit d'Adolphe Mozito ainsi que M. Freddy Matungulu. Vous voyez qu'effectivement ici, la vérité des urnes pour son positionnement personnel, c'est pas la vérité des urnes parce qu'on croit. Lorsqu'on a saisi les institutions de la République et que ces institutions ont pris des décisions, on s'est plié. Étienne Tshisekedi ne s'était pas plié pour la simple bonne raison qu'il avait rejeté les institutions de la République. Il a même demandé à ces gens de ne pas participer aux institutions de la République. Donc, partant de cela, il est resté dans ces registres-là. Mais ce n'est pas le cas pour Lamouka. Encore que si vous lisez bien, généralement quand c'est Lamouka qui écrit des lettres ou prend une position, il y a l'emblème de Lamouka. Mais ici, vous voyez très bien que c'est la personne de Martin Fayoulou qui écrit. Ce n'est pas leur organisation qui s'appelle Lamouka, parce que vous ne trouverez pas les logos de Lamouka dans cette correspondance ou en tout cas dans ce document, ces deux documents d'ailleurs, qui datent respectivement du 10 mai et 12 mai de l'année en cours. Bref, ne tombons pas dans les pièges. Il y a eu des failles à gauche, à droite dans les fonctionnements des institutions. Il nous appartient donc d'améliorer les dysfonctionnements qu'il y a eu à travers des réformes courageuses. Mais si les citoyens, les compatriotes ont des propositions à faire pour les réformes concernant la CENI, pour la Cour constitutionnelle, défense et sécurité, gouvernance, lutte contre la corruption, droits humains, etc., mais ils élaborent un document, ils adressent aux institutions de la République en disant les choses n'ont pas très bien fonctionné parce que le processus est perfectible. Voici ce que moi je propose pour améliorer la gouvernance de la CENI, la Cour constitutionnelle, les questions liées à la défense, sécurité, etc. En ce moment-là, on est un vrai compatriote. Mais lorsqu'on réunit ces gens, on dit oui, écoutez, vérité des urnes, moi je dois être là, j'ai été élu, machin, alors qu'en réalité on veut un positionnement pour occuper une fonction. Mes chers amis, ne soyons pas distraits. C'est clair qu'aujourd'hui, les gens se sont inscrits dans les cas de la défense de leur intérêt personnel et non l'intérêt du peuple congolais. Et ce que les gens de la Mouka vous disent, mais c'est tout simplement pour rire, quoi. Mais en réalité, ils veulent un positionnement et c'est clair. Pourquoi ils n'ont pas fait des propositions sur les réformes à mener? Pourquoi ils n'ont pas fait? Donc, M. Pierrot, ne nous trompons pas, les débats dans une république, mmh.
Voilà. Ok. On revient à vous, Maître Gabin. Comme je le disais tout à l'heure, on va élargir encore le débat dans la semaine, bien sûr, avec toutes les propositions de l'opposition républicaine, avec la coalition La Mouka. De quelle manière l'opposition doit-elle aujourd'hui se comporter prochainement pour arriver à améliorer la gestion de la chose publique et la réforme même? On aura cet autre débat la semaine prochaine. Franck, vous êtes à Vienne. Merci de nous avoir rejoints. Alors, pour vous, comment tout cela doit-il être mené? Faudrait-il aujourd'hui des discussions, des dialogues pour arriver à résoudre cette question? Faudrait-il aujourd'hui un cadre pour la réforme des institutions selon cette proposition? Quel est votre point de vue, Franck? Bonjour.
Oui, merci beaucoup, mon ami Pierrot. Bonjour à l'invité, aux amis qui se sont déjà exprimés et à ceux qui vont intervenir après. Bon, je ne veux pas intervenir pour émettre des jugements de valeur, mais je veux intervenir pour tenter un peu de comparer les contextes sociopolitiques post-électoral de 2006 à 2011 et de 2011 à 2018, parce que je trouve que si nous devons seulement nous arrêter à interpréter les gestes posés par les candidats malheureux aux élections présidentielles, Martin Fayulu, on risquerait de ne pas tenir compte de certains aspects. Alors, je vais d'abord prendre le contexte sociopolitique post-électoral de 2006. Les élections présidentielles avaient eu lieu en deux tours. Et au second tour, après la proclamation des résultats définitifs, proclamé par la CI et confirmé par la Cour suprême de l'époque, je crois, nous avons constaté avec vous qu'il y a eu des vents, des révoltes, des contestations qui avaient entraîné des gammes de recours et aussi des affrontements militaires de milices fidèles aux deux candidats restés en liste au second tour. Et de ces confrontations militaires, un des leaders a été contraint à l'exil. Ça, c'est un des aspects dont il faut tenir compte. Et en 2011, on est parti pour les élections présidentielles de deux tours en un seul tour. Après la proclamation des résultats définitifs confirmés par la Cour suprême de l'époque, nous avons constaté qu'il y a eu aussi des vagues de contestation. Et ces vagues de contestation avaient même conduit, cette fois-ci, pas à une guerre, mais il y avait aussi des révoltes et des morts. Mais les candidats qui se sentaient floués aux élections présidentielles s'est permis de prêter serment dans un cadre extra-constitutionnel. C'est pour dire déjà que si nous devons voir le contexte politique post-électoral de 2006 et de 2011, il n'y a pas trop de différence par rapport à l'attitude de nos leaders politiques qui ne se contentent pas seulement de se plier aux résultats proclamés par la CENI, mais qui pense que chacun d'eux devait absolument remporter. Alors, si nous devons encore jeter un coup d'œil par rapport au contexte sociopolitique post-électoral de 2012 à 2015, il y a eu des leaders politiques. Là, je crois qu'il faut être vraiment clair et sincère. Il y a eu des leaders politiques qui commençait déjà à suggérer ou à demander la tenue d'un dialogue ou des dialogues. Alors, au lieu d'accorder ce dialogue qui était suggéré par certains leaders politiques de l'opposition, on est arrivé aux concertations nationales. Et des concertations nationales, on est arrivé à l'élargissement de l'exécutif au niveau national, si bien que certains membres de l'opposition se sont retrouvés au sein de cet exécutif-là. Comme conséquence, il y en a qui ont changé de regroupement politique, il y en a qui ont changé des idéologies politiques, et on est allé de ce vent de satisfaction jusqu'à la tenue des dialogues à cause du manque de l'organisation des élections à la date tenue. Alors, par là, pourquoi j'ai fait tous ces rappels-là? Parce que, M. Pierrot, je crois que l'histoire, c'est dans le temps. Et l'histoire, on ne peut pas la faire en dehors du temps, et l'histoire se fait avec les acteurs qui sont les sujets de leur vie. Mais il y a des gens qui sont maintenant au sein du cabinet du président, même il y en a qui sont encore au niveau de l'opposition, qui militaient pour la tenue de ce dialogue. Mais en ce moment-là, quand le même militait pour la tenue de ce dialogue, il y avait un président qui avait prêté serment dans un cadre légal institutionnel. Il n'y avait pas vraiment, pour bien dire, une certaine crise ou quoi, mais pour eux, ils trouvaient qu'il fallait arriver à un dialogue afin qu'ils approchent le pouvoir. Alors, personnellement, je trouve que ce qui se passe maintenant après les élections de 2018 à 2019, c'est la continuité de ce que nous avons toujours vécu en 2011, c'est l'attitude de nos hommes politiques, c'est ce qui nous est déjà habitué. Et je crois que moi, je ne veux pas chercher à savoir qu'est-ce qui est devenu la vérité des urnes, mais depuis un certain moment, vous allez vous rendre compte que je ne fais plus vraiment des cadeaux à nos politiciens, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient de l'opposition. Mon ami Pierrot, ils sont tous pareils. Je crois que même ceux qui sont au pouvoir, les amis de Cash, s'ils n'avaient pas été approchés à temps par les gens du FCC pour leur coalition, mais on peut nous dire comment aurait été leur réaction s'ils n'avaient pas été associés au partage du pouvoir. Et je crois que ce que nous pouvons retenir comme leçon, on pense organiser les élections, mais les acteurs politiques et les leaders politiques eux-mêmes d'abord ne croient pas à ces élections. Parce que si ces leaders politiques croyaient à ces élections, ils feraient confiance à la CENI et ils feraient confiance aux résultats. Mais comme chacun ne fait pas confiance à la CENI, comme chacun milite pour soi, c'est comme ça qu'on arrive à de telles situations. Ça, c'est une des leçons à tirer. Une deuxième leçon à tirer, là, je m'adresse aux membres de l'opposition. Ils étaient en groupe. Mais avant de se rendre à Genève, il y avait des gens qui leur disaient qu'ils devaient déjà se mettre d'accord, dépasser leurs égos, se mettre d'accord sur le profil d'un candidat commun à programmer pour les élections présidentielles. Mais là aussi, nous nous sommes rendus compte que personne ne voulait faire confiance à personne. Ils se sont présentés à Genève en ordre dispersé. Et la suite, nous avons eu Genève. Après Genève, nous avons eu Nairobi. Et après Nairobi a encore entraîné Kinshasa. Mais est-ce que maintenant, de nos jours, on peut vraiment nous dire, est-ce qu'on peut dire au peuple congolais quelles sont les clauses de cet accord eu entre les CACH et les FCC? On ne sait pas. Et quelle serait l'attitude des gens du CACH si les gens du FCC avaient approché la Mouka? On ne sait pas.
Alors pour vous, je pense que dans la globalité, Franck, vous revenez sur la question de sincérité. Vous estimez que quand les acteurs politiques discutent, quand ils se préparent pour les élections, je peux conclure qu'il n'y a pas vraiment la de sincérité. C'est pourquoi vous dites que vous ne leur faites pas cadeau, qu'ils soient de l'opposition, quelle va être l'attitude des uns et des autres. Ça dit que cela tourne autour de la sincérité, n'est-ce pas, dans les discussions, hein, dans de quelle manière nos opérateurs politiques conduisent les affaires. Et surtout quand ça concerne bien sûr d'accéder au pouvoir. Pichou, vous êtes à Akouilungongo. Merci d'être avec nous. Vous nous avez rejoint dans ces débats. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs. Et je salue mon ami de l'Australie.
On vous écoute, oui.
Merci Pierrot. Je crois que nous avons tous vécu des moments ici dans notre pays. L'histoire ne nous trompera jamais. Il y a des documents qui sont écrits. Il y a des documents qui sont dans les bureaux des gens au niveau de la République. Donc, s'il faudrait ici rappeler les gens, nous savions tous, mon ami de l'Australie l'a rappelé très bien, il a très bien expliqué, Mais moi, je déplore une chose. Aujourd'hui, la politique est faite, ou soit, est partagée par des gens qui ne sont même pas politiciens et qui ne peuvent pas aussi l'être. Martin Fayoulou mène une démarche noble. Il a bien dit que pour la sortie de crise, les gens ignorent qu'il y a une crise. Et pourtant, c'est très bien expliqué. Vous voyez, le président de aujourd'hui a intérêt à approcher cette opposition pour aider, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, il est minoritaire absolu et c'est un danger pour la présidence. C'est un danger permanent. Donc il a intérêt à voir de près ces dossiers qui constituent cette nouement, en fait, cette réconciliation entre lui et le candidat malgré que nous disons. Donc moi je sollicite les atouts, ou soit la présidence de la République, si j'étais son conseiller, de ne pas négliger cet aspect. Il y a un problème qui, en tout cas, dans l'avenir, peut ronger le pays. Nous voyons comment les choses se passent, comment ça évolue, nous voyons comment le gouvernement traîne, nous voyons comment au Parlement, il y a des histoires qui se passent. Donc pour moi, je crois que le président de la République a intérêt de tourner l'oreille à Martin Fayoulou et à un reste de l'opposition.
Mais si vous avez suivi les débats que nous avons eus la semaine passée, parce que c'est les débats que nous allons encore avoir la semaine prochaine avec la coalition Lamouka sur la question de l'avenir de l'opposition. Beaucoup de gens, même sur la page Facebook, ils estiment que mais si on doit continuer à se rapprocher, c'est qu'en fin de compte, le pays va avoir les gens tous qui vont dans la même direction et on n'aura pas une opposition quand tout le monde pourra se retrouver pour discuter autour du chef de l'État ou soit d'accéder dans les institutions. C'est enfin que l'opposition ne pourra plus exister.
Non, mais moi je l'ai dit, ils étaient dans l'opposition ensemble à Genève. Moi je l'ai dit aujourd'hui, je le confirme, qu'ils étaient en ordre dispersé, comme l'a dit mon ami. Donc quelque part, il y a un problème qui ronge. Et ça nous met en doute de croire que nous n'avons pas une opposition forte au niveau de la République. Voyez comment les gens sont manipulés derrière l'argent. Voyez comment que les gens se retrouvent dans des ministres, dans les postes ministériels, dans des endroits où ils ne savent même plus que la population qui les a votés est en train de souffrir. La population est en train de souffrir, je vous dis, à un niveau élevé. Donc, quelque part, nous voulons, quand nous avons voté, nous avons souhaité des solutions. Mais là, maintenant, nous avons des problèmes à la place des solutions. Donc, nous souhaitons à ce que le président de la République nous trouve des solutions dans des problèmes qui feront en sorte que la population puisse se retrouver. Et c'est là, dans un bref délai, parce que tout ce temps ici qui est passé, posez-vous la question, comment vivent les populations dans les intérieurs du pays? Comment vivent les gens dans les réfugiés? Comment vivent les gens dans les hôpitaux? Il y a des gens qui ne savent pas se guérir parce qu'ils n'ont pas 1000 francs pour se payer de nouvelles gènes. Pour vous rendre compte, ça doit être une priorité pour le chef de l'État pour trouver des solutions à nos problèmes et non voilà. Nous créer
merci,
des ennuis,
beaucoup,
des problèmes.
Merci beaucoup, Pichou. Merci beaucoup, Pichou. Vous estimez que pour vous, c'est important vraiment que les chefs de l'État considèrent cette proposition parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. Et vous soutenez qu'il y a une crise née après les élections. Notre invité disait tout à l'heure, une contestation après les élections, c'est un fait normal. Une crise, ça veut dire que les institutions qui sont là ne sont pas légitimes sur le plan juridique. Alors, nous revenons à vous, Maître Gabin Loulendo, avant d'écouter Charles qui est à Kinshasa. Comme je disais tout à l'heure, on va avoir un débat plus encore élargi la semaine prochaine avec l'opposition sur l'avenir même de l'opposition. Alors, on revient à vous, mais dans le propos aussi du chef de l'État, dans son point de presse, Maître Gabin, il a dit, oui, il y a des propositions, on peut les amener au niveau de l'Assemblée nationale pour la réforme des institutions, mais nous pouvons accepter tout comme nous pouvons refuser. C'est normal dans la démocratie. Mais est-ce que dans un fait normal, y a-t-il moyen qu'un jour ou l'autre, qu'on arrive quand même à des discussions qui débouchent sur une attente, si les gens estiment quand même qu'il y a des tensions dans la population pour que les gens regardent dans la même direction? Est-ce que cela est possible?
Bon, mais d'abord, je voudrais dire à nos amis qui sont intervenus tout à l'heure, j'ai entendu Franck et puis les derniers, je n'ai pas bien retenu le nom.
C'est Pichou, oui.
Ah, Monsieur Pichou. Mais qui a dit que nous n'avons pas de problème dans ce pays? Le président de la République est le premier à avoir dit qu'il faut des réformes courageuses pour ce pays. Parce que si nous ne faisons pas des réformes dans beaucoup de domaines, les résultats ne viendront pas. Et quand on élit un président de la République, c'est pour qu'effectivement, les présidents montrent aux gens de quoi il est capable à travers, bien évidemment, les réformes qui vont être menées pour arriver à des résultats. Les réformes sont nécessaires et toutes les propositions dans le cadre des réformes pour le bien-être de notre pays et de nos populations sont les bienvenues. Toutes les propositions sont les bienvenues. Mais regardez un peu ce que je peux appeler l'astuce des hommes politiques, et surtout lorsqu'ils n'ont pas gagné une élection. Lorsqu'on perd une élection, on veut arriver au pouvoir par les mécanismes du dialogue. Et l'histoire politique de notre pays les démontre à suffisance. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème se pose en termes du contenu? Non, le problème ne se pose pas en termes du contenu. Les réformes sont nécessaires, réformes de la CENI, cours constitutionnel, etc. Mais comment on arrive à ces réformes-là? Est-ce que vous pensez qu'on arrive à ces réformes-là parce qu'on va voir un monsieur Martin Fayoulou à la tête du, comment dirais-je, au Conseil national des réformes institutionnelles, secondé par Mouzitou ainsi que Matungulu? C'est cela qui permet qu'on arrive à des réformes. Encore que les réformes sont menées par les institutions de la République. Si on doit donner la charge de réformer les institutions de la République à une autre institution, quelle est la nature de cette institution-là? Les fameux Haut Conseil national des réformes institutionnelles. Quelle sera sa nature juridique? En d'autres termes, les parlements qui doivent mener des réformes, le gouvernement qui doit proposer des réformes, ainsi que d'autres institutions de la République, ne vont pas s'acquitter des missions constitutionnelles qui leur sont dévolues. Ces missions-là vont être exercées par une autre institution. Quelle est la valeur, quelle est la base juridique de cette institution qu'on va créer? C'est une institution d'appui à la démocratie ou c'est quoi? C'est pourquoi nous disons faisons très attention. Quand vous regardez très bien, réforme, oui, personne ne dit le contraire. Parce que nous voulons que les changements puissent avoir lieu dans ce pays. Et le président de la République s'est engagé largement là-dessus, sur des questions liées aux réformes, etc., avec des promesses qui ont été faites. Ici, c'est une autre manière de dire, écoutez, nous vous avons fait les chantages par rapport à la vérité des urnes, si vous voulez que nous puissions vous laisser tranquille, donnez-nous tel poste de responsabilité, donnez-nous telle institution, vous serez tranquille. C'est aussi simple, ne nous trompons pas. Nous voulons que les dialogues puissent être permanents, nous voulons que les propositions puissent être faites, personne n'est dit que la situation dans laquelle on est. Mais il ne faut pas confondre le fait que des gens contestent une élection avec une crise. Ici, vous avez des gens qui contestent une élection. Mais malheureusement, pour des élections qui ont eu lieu le même jour, regardez pour leurs propres intérêts, ils vous disent non, écoutez, les institutions là qui sont illégitimes, mais nous pouvons siéger parce que nous avons été élus. Ils ont envoyé leurs gens au niveau des assemblées provinciales, ils ont envoyé leurs gens au niveau des assemblées nationales, parce qu'effectivement, il y a un problème des émoluments. Mais concernant l'élection présidentielle, parce qu'ils ne sont pas là, eh ben, ils pensent que mais ils ont dit eux-mêmes disent que les élections du 30 décembre n'ont pas été bien organisées, il y a une crise de légitimité, c'est la vérité des urnes pour toutes ces élections-là. Mais qu'est-ce qui fait que vous acceptez de faire partie des institutions illégitimes? Parce qu'effectivement, leurs intérêts politiques exigent qu'ils soient là-bas parce qu'il y a des intérêts financiers.
Voilà, et d'ailleurs ces débats, on va revenir sur cette question avec dans un autre débat la semaine prochaine, hein, pour essayer de voir avec la coalition La Mouka et les autres, hein, sur l'avenir de l'opposition. Mais permettez, Maître Gamin, qu'on écoute les deux derniers auditeurs, Charles Laetitia Kinshasa, Marcel et Talouisa. Charles, merci de nous avoir rejoints. On est presque à la fin de l'émission. En bref, vous avez suivi les uns et les autres, Charles. Si vous pouvez diminuer le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît, Charles. Oui. Oui. On vous écoute, oui.
Merci beaucoup, Pierrot, pour la parole. Je crois que je ne serai pas large comme le tout a été déjà dit. Mais la question que nous voulons poser aujourd'hui, est-ce qu'il y a crise, vrai ou faux? Oui, il y a crise. Je crois que les évêques du Congo, ils sont partis voir les chefs de l'État. Ils ont déposé un document aussi en rapport avec la sortie de la crise. Je crois qu'il y a, il y a crise, effectivement. C'est la raison pour laquelle M. Martin Fayulu vient de proposer ces documents-là. Moi, je crois que si nous aimons notre pays et que nous voulons que des pays puissent sortir ou pour que des pays puissent aller de l'avant, nous devons aussi avoir la lucidité d'écouter les uns et les autres. Pour votre mémoire, Pierrot, s'il faut rapidement rappeler les, nos auditeurs, en ce qui concerne les élections, Martin Fayulu avait parlé également du fichier électoral qui était corrompu. Il avait parlé également en rapport avec les enrôlés fictifs. On n'a pas voulu l'écouter. Et aujourd'hui, nous sommes à l'élection avec un fichier corrompu. Je ne sais pas, est-ce que si nous aimons notre pays, nous devons toujours marcher dans de cette manière-là? Je pense que non.
Alors, en bref, vous estimez, oui. Pour vous, Charles, en un mot, Charles, vous souhaitez qu'on fasse quoi dans ces discussions? Qu'on puisse revoir les institutions, qu'on puisse organiser les élections? Qu'est-ce qui doit être fait pour régler la crise?
Moi, je crois qu'on doit commencer d'abord par revoir les institutions. Comme la Cour constitutionnelle a eu le courage de pouvoir revoir les contentieux électoraux, il faudrait également aussi qu'on puisse revoir le fonctionnement des institutions. Vous voyez, Pierrot, aujourd'hui, on n'a pas un gouvernement. Le décaissement se font chaque jour. Est-ce que c'est comme ça que le pays doit être géré?
Mais est-ce que vous estimez que ça doit être géré dans le dialogue pour que les gens comprennent un peu? C'est au travers des dialogues qu'on peut résoudre la question de la Cour constitutionnelle, la question du gouvernement?
Oui, Pierrot, parce que vous savez que nous avons dit dans notre constitution, on ne peut plus encore prendre des armes. Les Congolais ont beaucoup souffert. Nous devons nous retrouver autour d'une table, qu'on organise les dialogues, qu'on puisse mettre des points sur les i.
Merci beaucoup, Charles. Merci, Charles. On va terminer avec Marcel. Marcel, dommage pour vous, 30 secondes pour permettre à notre invité de pouvoir conclure. Quel est votre point de vue après avoir écouté les uns et les autres? Marcel, bonjour. Juste 30 secondes, oui.
Bonjour, monsieur Pierrot. Désolé que vous me donnez peu de minutes, mais je voudrais me résumer pour dire que si alors nous pouvons nous dire que la RDC est en crise, nous allons dire un peu non. Nous avons une crise d'hommes, monsieur Pierrot. En bref, c'est ce que je peux vous dire. Mais aussi, monsieur Pierrot, il faut savoir que Martin Fayulu n'a pas tort de pouvoir proposer ce qu'il propose. Néanmoins, il est en train de se détourner de son combat qui est au juste prôné depuis tout ce temps. En plus de ça, pour conclure, je voudrais savoir est-ce que ce ne serait pas une contradiction entre ces discussions qu'il prône et pourtant il ne reconnaît pas les institutions et il remet toujours en question tout cela. Mais
merci,
en fait, le dialogue est vraiment...
Voilà, je crois que nous allons avoir encore un débat la semaine prochaine autour de cette question avec d'autres invités. On revient à vous, Maître Gabin, parce que là, on n'a que juste 30 secondes pour votre conclusion autour de cette question, discussion, dialogue, faudrait-il former et s'entendre. Qu'est-ce qu'on peut retenir en dernière minute? Juste 30 secondes.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a contestation d'une élection et cette contestation a été réglée par les institutions de la République, mais il n'y a pas crise de légitimité. Ce sont deux choses différentes. Et dans une République, c'est tout à fait normal que lorsqu'une décision est prise, qu'elle puisse être contestée et qu'elle puisse être examinée par un autre organe, de telle sorte que finalement, à un moment donné, que chacun de nous puisse bien évidemment se taire. Deuxièmement, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Ça fait 50 ans que ce pays est détruit. Et ces problèmes ne vont pas être réglés dans un seul mandat. Ça veut dire que nous devons prendre l'engagement qu'effectivement, nous voulons que la République avance. Toutes les propositions sont les bienvenues pour faire avancer la République. Et je pense que le président de la République est à l'écoute de chacun de nous, de telle sorte qu'effectivement son mandat puisse être un succès. Mais penser qu'il y a une crise de légitimité parce que l'on n'a pas été élu ou parce que on ne se retrouve pas à la tête des institutions, c'est se tromper d'adresse.
Merci beaucoup, maître. Merci. Merci beaucoup, maître Gabin Lulendo. Je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint de l'UNC, communicateur cash. On va se retrouver, je crois, demain pour un autre numéro de parole aux auditeurs. Mais la semaine prochaine, on reviendra sur cette question de l'avenir de l'opposition dans un autre débat.
Merci beaucoup, Pierrot.
Allô?
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 Mais ils ne répondent pas?
Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde de ce magazine réalisé par Nico Kalambay. Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net, mais on retrouve aussi l'émission en rediffusion à 21h, heure de Kinshasa. Merci, au revoir.